Quels sont les personnages qui restent? Il y en a beaucoup. C'est ceux qui vous parlent, c'est ceux qui ont regard et qui ont un échange de regard entre l'enfant, le personnage et bien sûr tout le subconscient d'un dessin.
Moi, c'est Fifi, la petite souris. J'aime le fromage et les guilis.
Bonjour à tous. Pendant les fêtes de fin d'année, les éditeurs de livres pour la jeunesse réalisent un quart de leur vente annuelle. Le secteur se porte économiquement plutôt bien, avec un chiffre d'affaires de 364 millions d'euros en 2016. Mais si le marché semble toujours porteur, les chiffres recouvrent une situation pour le moins hétérogène. Les 120 éditeurs français spécialisés ont publié quelque 16 500 ouvrages en 2016, 10 fois plus qu'il y a 50 ans. En revanche, chaque ouvrage s'est vendu en moyenne à 5 300 exemplaires seulement, contre 6 100 en 2010. Cette érosion met en difficulté les auteurs et les éditeurs les moins connus. 1400 auteurs et illustrateurs ont créé La Charte, un mouvement qui réclame une juste rémunération pour des artistes qui sont souvent obligés d'avoir une autre activité pour survivre. Qu'attendent les jeunes lecteurs? Quels sont les ingrédients d'un bon livre pour la jeunesse? Comment travaillent les créateurs et les éditeurs? Quelques éléments de réponse avec ce reportage de Christine Siméone, La littérature jeunesse expliquée aux parents.
Interception, le magazine de la rédaction.
Ah, bonjour. Comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Loris.
Loris, tu as quel âge?
J'ai 8 ans.
Qu'est-ce que c'est un livre pour enfants réussi?
C'est un livre qui plaît aux enfants, qui est bien, qui les intéresse.
Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour que ça t'intéresse?
Des images jolies, du texte assez doux, pas trop que ça fasse peur.
Toi, tu n'aimes pas les histoires de loups qui font peur?
Si, ça va, mais il faut pas que ça fasse très 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 peur.
Qu'est-ce que tu as lu récemment?
Blaise et le château d'anniversaire.
Tu sais de qui c'est, Blaise? Oui. Et le château d'anniversaire, c'est qui?
De Claude Ponty.
Voilà, c'est un livre de Claude Ponty. Et pourquoi il te plaît, celui-là? Qu'est-ce qu'il a mis dedans, Claude Ponty, pour que ça te plaise?
Le texte, il est rigolo, avec les petits poussins, Blaise, c'est marrant. Et il fait souvent des blagues, des jeux de mots. Rien que dans le titre, il y en a déjà.
Est-ce qu'il faut qu'un livre se finisse toujours bien?
Non, pas forcément. Des fois, il y a des livres qui se finissent mal, mais ils sont quand même bien.
Merci beaucoup, Loris. Rien n'est plus favorable qu'un grand salon du livre pour essayer d'interroger les jeunes et leurs parents sur les recettes possibles pour faire un bon livre pour enfants ou un bon livre pour ados. Quels sont les bons ingrédients à y mettre?
Il faut déjà beaucoup de couleurs, que les dessins soient précis, que le titre correspond à l'histoire. Il faut que les personnages ils soient attachants. Moi, je préfère les histoires qui sont drôles.
Comment tu t'appelles?
Chloé.
Qu'est-ce que tu lis, toi, par exemple? Qu'est-ce que tu aimes comme livre?
Différentes choses, des BD, des romans, voilà.
Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Quel titre t'a marqué?
Quel titre m'a marqué? Un livre qui s'appelait L'Alchimiste. C'est un roman complètement fantastique. Et c'était assez sympathique parce que ça ramenait des personnages historiques dans le présent. Et donc c'était un mélange assez rigolo.
Et toi, Victoria?
Moi, j'aime bien ce qui est très fantastique, ça. Mais aussi, ce qui est des fois réel, c'est bien aussi. Mais moi, je suis un peu plus dans le fantastique. La vie réelle, on la voit tous les jours. Donc autant quand on lit, voir quelque chose de différent.
Merci. Cahier de vacances à l'usage des dépressifs par Cécile Gambini. Cécile Gambini, vous êtes illustratrice jeunesse au départ. Voilà, ça c'est votre petit chat fétiche qui est un chat masqué.
Mon chat croit que chez moi, c'est une boîte de nuit. Plantes bouffées et peau cassée. Raviolis au pipi. C'est beau, mais pas facile, l'amitié. Rocky Cat, c'est de Cécile Gambini, édition L'Atelier du Poisson Soluble.
Rocky Cat est une sorte d'enfant roi à la maison. C'est le chat super-héros et l'enfant roi.
Pourquoi est-ce que vos illustrations sont sorties des livres des enfants pour aller se promener en boucle d'oreille, en céramique?
Dans l'édition, je suis heureuse de faire mes dessins qui sont ensuite imprimés, mais je perdais un petit peu de l'objet magique original.
Mais ce ne sont pas les enfants qui vous ont suivi, du coup ce sont les adultes peut-être?
Moi je vis avec Rocky Cat au quotidien en fait, depuis une dizaine d'années, depuis ce livre. C'est assez étrange, mais je pense qu'il a dépassé le livre, parce que j'ai des enfants qui m'envoient la suite de mon livre en BD. J'ai des adultes qui m'envoient des photos de leur chat qu'ils viennent d'adopter, qu'ils ont appelé Rocky Cat. Enfin, c'est assez étrange, en fait, la vie d'un personnage de livre. Alors, c'est assez amusant, en fait, de voir l'engouement pour mon Rocky Cat par les adultes sur une forme de chat qui, effectivement, est complètement pour enfants à la base.
Mais finalement, est-ce que vous êtes une auteure jeunesse ou pas ?
Je pense que, de toute façon, un auteur jeunesse est un auteur, avant tout. Moi, j'ai le même plaisir. Le plaisir dans mes livres est exactement le même, que ce soit jeunesse ou pas jeunesse. C'est le spectateur qui va décider, mais c'est pas moi quand j'écris le livre.
Je m'appelle Alexandra Tagnou. Je suis une maman de 43 ans. Je travaille dans une école de communication.
Est-ce qu'on lit beaucoup chez vous ?
Moi, je lis beaucoup. Mon mari, pas du tout. Et mes filles m'ont suivie. Elles ont eu la fibre comme moi. Moi, j'ai toujours lu beaucoup quand j'étais jeune. Je regardais peu la télévision parce que mon imaginaire travaillait beaucoup plus grâce aux livres. Donc, moi, il me faut des éléments qui m'emmènent vraiment ailleurs, des histoires qui me font vraiment rêver. Et je pense que pour les enfants, c'est la même chose.
D'accord. Vous laissez vos enfants choisir les livres qu'ils veulent lire ?
Globalement, oui. On est beaucoup dans l'échange. Ma plus grande, en ce moment, aborde le secondaire. Et je lui passe les classiques que je lisais au même âge pour qu'on puisse... Là, dernièrement, je lui ai passé le Grand Maulne, qui vient juste de commencer, parce que dans son cursus, elle ne l'avait pas. On échange sur Zola, qu'elle étudie en classe, qui sont des livres que j'ai étudiés au même âge. Donc, La plus jeune, c'est elle qui m'a fait découvrir une série dernièrement, qu'elle a aimée. C'est une série vraiment jeunesse, sur Nicolas Flamel, l'alchimiste. Et elle m'a dit, maman, c'est bien, lis-le. Et on a lu les livres ensemble. Donc, d'ailleurs, sur la fin, je l'ai devancée.
Donc, la littérature jeunesse peut intéresser les adultes ?
Ah oui, moi, je suis une grande fan d'Harry Potter, que j'ai découvert vraiment déjà maman. Et Philippe Pullman, là, qui vient juste de sortir un nouveau roman, mais La Croisée des Mondes, moi, ça m'a fascinée. J'ai adoré justement cet univers de science-fiction, fantasy, qui s'adresse à la jeunesse. Mais quand on lit bien, il y a des thèmes autres qui sont abordés et que j'ai adoré.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
C'est à l'occasion des salons du livre, des salons du livre jeunesse, qu'on peut rencontrer les auteurs, ceux qui font les succès de la littérature jeunesse. On peut parler de PEF, on peut parler de Zep, de Claude Ponty, de Michel Gay, de Gwen Le Gac, par exemple. Et la question qui se pose, en fait, pour ces auteurs, c'est en ce moment la question de la précarisation de ce métier. En fait, je rappelle qu'en environ 16 ans, c'est-à-dire entre 2000 et 2016 exactement, il se publie deux fois plus de livres pour la jeunesse. On est passé de 8300 titres qui sont parus en 2000 à 16500 qui sont parus en 2016. La question à la fin, c'est de se demander s'il y a vraiment de la place pour tous les auteurs et pour toute cette créativité, sachant que le marché du livre est squatté par deux, trois grands titres, que sont Astérix et Harry Potter.
Bonjour, je suis Sylvie Vassallo, j'organise le Salon du Livre de Jeunesse et à ce titre-là, en fait, je m'intéresse à tout ce qui peut permettre aux enfants de découvrir des livres et de la littérature, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis.
Est-ce qu'il y a trop d'auteurs de littérature jeunesse ? On est passé de 8000 à 16000 titres publiés chaque année, en 16 ans.
Je croyais que vous alliez me demander s'il y avait trop de livres. Parce que trop de livres et trop d'auteurs, c'est pas complètement la même question. Mais oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ouvrages maintenant. Et en 2010, il y avait 8000 titres, dont 4000 nouveautés. Aujourd'hui, il y a 16 000 titres, dont 7000 nouveautés. Donc, on reste à peu près dans les mêmes proportions. Mais le taux de fécondité, il n'a pas été multiplié par deux, clairement. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de livres, où tout le monde dit on n'est plus complètement en situation de les lire. Nous, on est du côté des récepteurs, c'est-à-dire du côté des lecteurs, du côté de ceux qui voient arriver les livres et qui essayent de les conseiller, de les mettre en valeur, de parler des auteurs, de parler de ces démarches. Et en fait, avec ce nombre-là de livres, forcément, c'est plus difficile. Forcément, il y a des livres qu'on ne peut pas lire ou qu'on laisse passer. Je crois que le succès économique de l'édition a entraîné aussi beaucoup d'éditeurs sur ce marché, en fait, puisque c'est une industrie. Et effectivement, aujourd'hui, ça nous pose des problèmes en tant que lecteurs, ça pose des problèmes aux libraires et ça pose des problèmes aussi aux éditeurs qui, finalement, n'arrivent pas à vivre avec leur production et aux écrivains qui, également, ont besoin d'écrire plus de livres pour vivre. Donc, au total, il y a effectivement, là, aujourd'hui, un vrai questionnement sur ce sujet.
Il y a un problème d'engorgement du marché, en fait, très clairement.
Oui, d'engorgement du marché, de surproduction, de mauvais équilibre entre le nombre de livres qui paraissent et la possibilité qu'ils trouvent des lecteurs, en fait, qu'ils trouvent leurs lecteurs.
J'avais 8 ans et nous habitions un appartement à Lille, une ville du Nord. J'avais une chambre à moi. Sur notre balcon, mes parents faisaient pousser des sortes de palmiers et ils y rangeaient mon vélo. L'été, nous partions en vacances. Je me souviens d'un voyage en Espagne et d'un autre en Hollande. Mes parents m'y avaient acheté des chaussons en forme de sabots de bois dont je ne me suis jamais servi. Je n'ai plus 8 ans aujourd'hui. Cela va faire bientôt 4 ans que je n'ai plus 8 ans. Mais je n'ai rien oublié. Ni des jours où j'ai compris que la pauvreté gagnait du terrain, ni des jours où elle nous a tous emportés. Un enfant de pauvre, de Gwen Le Gac et Christophe Honoré, paru aux éditions Actes Sud Junior.
Je suis auteure-illustratrice, je m'appelle Gwen Le Gac. Je suis une couleur, la règle d'or du cache-cache, le terrible 6 heures du soir, ou un enfant de pauvre. Trois de ces titres sont des livres que j'ai réalisés avec Christophe Honoré au texte. On travaille beaucoup sur ce qui est caché avec Christophe. Alors que ce soit par exemple la pauvreté qu'on cache parce que on peut en avoir honte, surtout quand on est enfant. Et le terrible 6 heures du soir, c'est la violence et voilà qu'on cache, qui fait peur. Donc c'est vrai que c'est quand même un thème qui est extrêmement présent dans mes livres et c'est pour ça que ce qui explique cette expo et cette installation, en fait, c'est plus une installation.
Donc ici, nous sommes au milieu d'une exposition que vous avez conçue pour les enfants, qui est une autre façon de leur parler d'ailleurs que celle des livres finalement. Expliquez-nous un peu ce qu'on a autour de nous là.
Alors ici on a donc une trentaine de miroirs sur lesquels sont peints des masques. Du coup, effectivement les enfants mais pas que, les individus, ça s'adresse vraiment à tous les publics. À partir du moment où il arrive et s'avance devant un miroir, au lieu de se voir, il voit un autre visage, il se voit différemment.
Est-ce que ça marche pour vous justement ? Auteur jeunesse, en ce moment, là, la charte des auteurs est assez remontée sur l'idée que le métier se précarise, qu'on ne gagne pas du tout beaucoup d'argent, même si on a un succès certain.
Alors oui, c'est vrai que c'est un métier très très compliqué. Ça compte énormément pour moi. J'ai trouvé des espèces de solutions à travers les résidences, à travers les demandes de bourses. Mais c'est vrai que c'est des paris et quand ce n'est pas au rendez-vous et quand ça prend pas forcément, et on est quand même dans une précarité, oui, je peux pas dire le contraire. Et d'ailleurs, un enfant de pauvre, c'est aussi parce que c'est une réflexion sur le thème de l'argent, évidemment. Voilà.
Les auteurs jeunesse gagnent 6% du prix de vente de leurs livres, 3% quand ils sont deux co-auteurs sur un même titre. Alors, il faut vendre 500 livres pour s'acheter une paire de lunettes à 300 euros ou bien 18 livres pour acheter un poulet fermier à 10 euros. C'est avec ce type de comparaison que les auteurs jeunesse ont récemment exposé leur désarroi. Ils se sont réunis sous le nom de la Charte des auteurs jeunesse et ils ont lancé cet hiver une web-série à la manière d'une enquête télé où le commentateur décrit en fait le contraire de la réalité, c'est-à-dire le contraire des difficultés que les auteurs rencontrent. On ne les voit pas, ces difficultés, parce qu'on parle toujours de leur succès ou de la beauté de la poésie de leurs livres.
Gouache, aquarelle, fusain, les illustrateurs sont avant tout des artistes. Nous partons aujourd'hui sur les traces de Marie Bidule, illustratrice jeunesse dont tout le monde s'arrache les croquis et qui signe la série à succès Le fil à la papatte.
Bonjour.
À l'instar d'Hemingway et de nombreux artistes avant elle, Marie décide de son emploi du temps et peut commencer ses journées à midi.
Alors pour Hemingway, je sais pas, mais moi j'ai fini à 2h cette nuit, j'ai repris à 7h, donc bon. Mais ça va. Par contre, je suis censée être en vacances. Les premières depuis 3 ans, donc les congés payés. Moi, je suis auteur, donc je touche des droits d'auteur. Je me débrouille, enfin, je paye mes vacances, quoi. Et puis, si un jour ça marche plus, pas de chômage, rien. Ça, c'est flippant. Il avait des congés payés, Hemingway ? Oula, faut que je prenne ça, c'est mon éditrice. Le monstre est trop quoi ? Anxiogène ! Oui, Françoise, c'est un monstre, donc c'est son boulot d'être anxiogène.
Personne sur le dos pour contredire l'artiste.
Ok, bah si tu le dis, je le refais. Pour quand ? Lundi ? Ah mais moi je suis en vacances lundi. Non, Françoise, je...
Salut, Wally. Oui, c'est la porte qui est ouverte, justement. D'accord. Voilà.
Nous sommes au Centre socioculturel Georges Brassens à Bondy, où nous allons voir... comment se déroulent les ateliers en fait organisés pour les parents pour leur permettre de s'habituer à la lecture de livres pour leurs enfants. Il faut savoir qu'une étude du magazine J'aime lire qui est parue il y a quelques mois a montré que en fait la pratique de la lecture des parents vis-à-vis de leurs enfants est restée stable en 20 ans. 52% des Français déclarent comme en 97 en fait hein, avoir lu souvent ou de temps en temps lorsqu'ils étaient jeunes. Aujourd'hui, plus de 6 parents sur 10 ayant au moins un enfant entre 7 et 12 ans déclarent proposer des livres à leurs enfants qu'ils ont aimés à leur âge. En 97, il y a 20 ans, il n'était que 4 ou 5 sur 10 à faire cette démarche. Donc ça augmente.
Je m'appelle Stéphanie Posé, je travaille à la bibliothèque de Bondy. Aujourd'hui, nous sommes au centre social Georges Brassens pour participer à un atelier des livres à soi. Au cours de chacun de ces ateliers, nous présentons des livres aux familles. Chaque personne regarde les livres pendant un moment, on choisit un et le présente aux autres participants qui sont présents. Ça nous permet de faire découvrir des livres différents à chaque séance et de faire découvrir des livres que les familles ne connaissent pas forcément et qu'elles n'ont pas forcément à la maison non plus.
Elles viennent régulièrement à la bibliothèque. D'ailleurs, ce sont des mamans, pas des papas. Là, en tout cas sous mes yeux.
On a eu 5 ateliers différents, 6 ateliers différents durant l'année. Et ensuite, il y a eu des visites organisées au Salon du Livre, en librairie et à la bibliothèque. Et suite à ces ateliers, un certain nombre de familles se sont inscrites et participent régulièrement aux activités proposées à la bibliothèque ou viennent, fréquentent davantage la bibliothèque qu'auparavant avec leurs enfants. Et ce sont des familles qui ne sont pas forcément habituées à avoir des livres à la maison pour différentes raisons, soit parce qu'elles ne lisent pas, soit parce que les livres coûtent cher, soit parce qu'elles n'ont jamais eu l'habitude. Donc on a sélectionné des livres qui sont lisibles par tout le monde. Soit ce sont des livres sans texte, des imagiers, des livres pop-up. Donc, ce qu'on appelle livres pop-up, ce sont les livres en relief qui se déploient quand on les ouvre. Voilà, ce genre de livres qui sont vraiment lisibles par tout le monde et dans toutes les langues.
Alors mesdames, c'est bon ? Est-ce que tout le monde a pu choisir son livre ? C'est bon ? Est-ce que vous êtes prête ? Alors, qui peut commencer pour présenter son livre ? Oui ?
Ce livre, j'adore. Livre de transport. Livre de transport, parce qu'il y a des noms que je ne connais pas. Là, j'ai vu tous les noms, j'adore. Et voilà.
C'est votre petite fille à côté, là?
Oui, c'est ma fille. Okay. Il s'appelle Geneva.
Oui.
Et Geneva, tu as regardé le livre que ta maman a choisi?
Oui.
Tu peux me dire un peu ce qu'il y a dans ce livre?
Elle est à bio.
Alors moi je suis Ikram Amdaoui, coordinatrice secteur famille au centre socio-culturel Jean Brassens.
Vous êtes coordinatrice de famille, vous n'êtes pas bibliothécaire?
Pas du tout, non. Et du coup c'était vraiment, je trouve ce projet vraiment assez intéressant et très complet. Parce qu'il y avait les formations pour les professionnels, il y avait les ateliers pour les participants, et il y avait la dotation pour Brassens. On a eu une 600 euros de dotation en chèque lire pour acheter des livres. Et du coup, on a pu construire une mini-bibliothèque à la Haldegarderie qui sert tous les jours, pratiquement tous les jours, que ce soit à la Haldegarderie ou pour l'accompagnement à la scolarité, pour garder la place du livre au sein de la famille au quotidien. Et casser la barrière de la langue. Parce qu'au centre socio-culturel, on a des familles qui ne parlent pas le français. Et que pour elles, être en lien avec le livre, c'était une difficulté. Parce que pour elles, la langue française, c'est indispensable pour lire et partager des moments avec les enfants. Alors que c'est pas du tout indispensable. On peut raconter une histoire, un livre sans texte, mais dans notre langue maternelle. Ce qui est vraiment indispensable pour garder ce lien avec nos enfants.
Est-ce que vous voulez nous dire autre chose sur ce livre ? Non, c'est tout. Vous, ce qui vous a plu, c'est le fait de découvrir des nouveaux mots que vous ne connaissiez pas en français, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Avec le son.
Voilà, et il y a les sons, oui.
Les sons.
C'est ça qui vous a plu?
Oui.
D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre le connaît ou l'a regardé, ce livre sur les transports? Non, pas celui-ci? D'accord. Alors, qui d'autre veut nous présenter son livre?
Moi, j'aime bien ce livre parce que il peut être intéressant pour les enfants et marrant aussi parce qu'il cache beaucoup de choses. En ouvrant les fenêtres, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Donc, ça peut intéresser les enfants. Enfin, c'est ce que je pense parce que moi, ma fille, l'année dernière, elle venait ici. Et quand elle a vu ce livre, elle a aimé. D'ailleurs, je cherche à l'acheter. J'arrive toujours pas à le trouver. Et voilà, quoi.
Vous vous appelez comment?
Samira.
C'est
la maison hantée.
La maison hantée.
C'est ça. Vous pouvez le voir, il est bien intéressant.
Il y a un escalier. Ah oui, mais il y a une sorte
oui,
de
c'est pour ça, c'est ce que je vois. Il y a plein de choses en utilisant plein de choses, enfin en ouvrant toutes les fenêtres. Vous avez vu?
Vous racontez choses. Quoi comme histoire sur ce livre en fait?
Bah, il y a quand même des choses indiquées, enfin la lecture.
Il y a une petite phrase par page.
Donc, à chaque page, donc. Voilà quoi.
Et vous vous en tenez à ce qui est écrit ou vous inventez un peu?
J'essaie d'inventer quand même un petit peu. Oui, j'essaie d'inventer.
Samira, je peux vous poser une autre question? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Bah écoutez, c'est pour moi, c'est pas. C'est pour les enfants surtout, pour leur apprendre à lire, pour qu'ils apprennent à lire, pour. Pour pas qu'ils passent le temps à la télé, déjà. Essayer d'éviter tout ça. Les tablettes, tout ce qui est portable, tout ce qui est. On essaye de. Déjà, moi, mes enfants, ils étaient accrochés, on va pas dire 7 jours sur 7, mais quand même. Et depuis que je leur. Ils sont encore dessus, mais je leur ai pas retiré. Mais il y a moins de. Là, ils prennent le temps quand même de prendre un livre. Donc, je les oblige pas. Mais je leur mets quand même des limites. Donc ça les a aidés quand même. Donc, voilà.
Vous y prenez du plaisir aussi? Parce que là, je vois, vous êtes toute seule, un peu dans votre coin, et vous feuilletez un livre. Vous en profitez un peu, en fait.
J'en profite, et je le faisais. Avant, je ne le faisais pas. Et c'est vrai que là, j'essaie de regarder, parce que étant enfant, j'avais pas cette chance-là. Pour nous, à part l'école, nous aussi, on arrivait tout de suite la télé. et après aller se coucher. Mais là, non, j'essaye de prendre... En fait, je rattrape le temps perdu. Donc, c'est ce que je... Et c'est vrai que je prends plaisir. Même la lecture, et... bon, je ne vais pas dire que je ne sais pas lire, mais quand même, ça me prend... Il y a des choses que je ne connaissais pas, il y a des mots que je ne connaissais pas, qu'en fur et à mesure, avec la lecture, j'essaie d'apprendre. Et quand je ne comprends pas un mot, je vais direct sur Internet pour voir ce que c'est. Et ça me donne la définition et tout ça. Donc, je veux dire, avant, moi et mes enfants, on n'avait pas le temps de discuter... Je veux dire, on avait la routine, rentrer à la maison. Et là, je prends le temps d'écouter mes enfants. Et ils m'expliquent qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qu'ils font à l'école. Beaucoup de choses. Ça a changé.
Fatima, vas-y. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Alors, juste pour vous dire, moi, de ce projet, je retiens, en fait, Fatima, c'est une dame qui ne parle pas du tout français. Elle vient d'arriver en France il y a presque un an. Elle vient de la campagne de l'Algérie et elle n'était pas à l'école avant. Elle ne sait pas lire et écrire aussi l'arabe. Et du coup, elle a présenté ce livre aux petits détails. Les petits détails, elle les a présentés, mais dans la langue, dans sa langue maternelle, en arabe. Fatima, tu peux nous présenter le livre
en arabe. Il est où les petites ?
T'inquiète pas.
La vacance, Kuna Konji. Kuna vacance, Emma. Ouais. البنت قالت لي امها قالت لها ماما دقت في الدار راني باغيه نخرج برا ونشوف ونموجو قالت لها بنتي فين نمشيو قالت لها ماما فين ما بغيت نمشيو
لا في هي ديال سا مامو ماما جو مونوي على لا ميزون جي انفي دو سورتير اي الي على مير
الو قالت لي يلاه نمشيو شط البحر نشوفو بعينانا ونقلعو على قلوبنا نشمو شويه هواء نقي
فوالا الو جوست بور فوار لا مير فوار لا فاك جي انفي دو فوار لا مير اي فوالا توشي لو سابل توشي لا مير
الوغ مشاو شط البحر البنت اكتشفت حاجه زرقاء كبيره ما عرفتش شنو هو هذا اول مره مشات لشط البحر
جي كو لا في سي لا بروميير فوا كيل فوا لا مير ايل افي انفي دو فوار لا مير اي دو كو سي لا بروميير فوا كيل فوا لا مير اي ايل ايتي ان بيتي بو سوربريز بار ليمونس دو لا مير اي بار لا كولور بلو كي فا تري تري لوان اي ايل ريست كوم سا ا ريغاردي لا مير او ديبي
وي ومن بعد جات موجه كبيره قعدت هي تخمو شنو هذا اللي راهي على
maintenant elle a vu la grosse vague et elle commençait à se dire mais c'est quoi ça c'est là c'est un peu trop qu'est-ce que je fais
oui من بعد كي شافت هي الموجه كبيره خافت هربت
elle a peur et du coup elle a reculé
ouais comme ça le congé
ça ce sont vraiment les mots de Fatima parce que le livre de Suzy Lee est sans paroles c'est juste de l'aquarelle bleue du noir du blanc et un peu de gris à peine, et une petite fille qui se trempe les pieds comme ça. Toi, tu as très envie de parler depuis tout à l'heure.
Je m'appelle Thierry.
Tu as quel âge ?
7 ans.
Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ?
Je veux vous parler d'un livre très rigolo où il y a des rimes. C'est ça que j'ai plu, comme dans une poésie. Et qu'est-ce qui est mieux aussi, c'est qui, comment dire, que on peut mettre du rythme. Par exemple, moi c'est Fifi, la petite souris. J'aime le fromage et les guilis. Ou sinon, on peut aussi dire, moi c'est Edouard, le petit canard. Et dans ton bain, je fais coin-coin, par exemple. Et aussi, qu'est-ce qui me plaît, c'est les illustrations, parce qu'elles sont très belles, comme la coccinelle.
Mmh. Qu'est-ce qu'elle dit, la coccinelle ?
Elle dit que c'est moi, Estelle, la coccinelle, tout rouge et noir, je viens te voir. Et dans cette image, qu'est-ce qui est drôle ? C'est... qu'elle a plusieurs pattes alors qu'on a pu jamais voir des fourmis de près et ça peut nous dire combien de pattes la coccinelle elle a.
Parce que là la coccinelle elle a 6 pattes et tu crois qu'en vrai une coccinelle elle a 6 pattes ?
Il faudrait plutôt demander aux scientifiques. Mais aussi c'est le titre qui m'a beaucoup plu, c'est Animum. Avec un accent sur le haut. c'est tout.
Dans le monde foisonnant et éclectique de la littérature jeunesse, on trouve donc des auteurs un peu perdus dans la jungle économique de l'édition, des parents qui ont besoin d'être guidés et des professionnels qui essaient de sensibiliser à la lecture et de faire reconnaître tous les talents. Leur travail est parfois devancé par un autre grand promoteur de la littérature jeunesse, j'ai nommé le cinéma. C'est comme si le passage au grand écran relançait l'imprimerie. Ainsi en va-t-il pour des titres comme La Reine des Neiges ou Harry Potter. Cet hiver sort sur grand écran une adaptation de la collection française Drôles de petites bêtes, un exemple de ces allers-retours entre livres et écran qui amplifient les écarts de médiatisation entre les livres.
Bienvenue dans le monde des drôles de petites bêtes. Ici, tout le monde a son rôle. Il y a la reine Marguerite.
Majesté, votre peuple bien-aimé vous prépare une fête des plus grandioses.
Loulou, le pou. Mireille, l'abeille. Belle, la coccinelle.
Bonjour, Belle.
Bonjour, Siméon.
Siméon, le papillon. Marie, la fourmi.
Non, tu ne bouges pas. Tu dois attendre, Léon.
Léon, le bourdon. Et bien sûr... Carole, la luciole.
Alors ici, nous entrons dans l'atelier d'un auteur jeunesse qui s'appelle Anton Krix. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais en revanche, la série qu'il a commencée dans les années 90 et qui s'appelle « Drôles de petites bêtes » fait partie des séries les plus populaires et les plus connues des enfants. C'est édité chez Gallimard Jeunesse. Et nous allons rencontrer Anton dans son atelier, au travail, dans le secret de ses petites bêtes. Deuxième étage.
Bonjour.
Eh bien, entrez. Suivez-moi.
Merci de nous recevoir dans le jardin imaginaire des drôles de petites bêtes.
En tout cas, le lieu où je les ai créés, d'ailleurs. On est en plein Paris, mais il y a un peu de verdure quand même qui me rappelle les jardins de mon enfance.
Et surtout dans votre tête, peut-être,
oui,
de la verdure,
non, en fait. Bien sûr. C'est vraiment le lieu où je travaille, qui est vraiment consacré au travail, à la réflexion. On est dans une grande pièce avec une grande verrière qui donne sur une cour paysagée, quelques arbres. Et donc on est dans une grande pièce avec une mezzanine. Et j'ai mon petit recoin, le petit recoin où je peins. Voilà, où je dessine et je peins. Bon, il y a plein de tables, hein, donc je peux dessiner et peindre un peu partout, mais c'est vrai que c'est... J'aime bien me retirer dans ce petit espace pour peindre.
Bonjour. Ça va, les enfants?
Bonjour, monsieur. Vous êtes qui, vous?
Qui je suis? Un magicien. Barbe à la bouche.
Waouh!
Rose, qui veut de l'eau de rose? Tada! Non. Les enfants, je vous ai dit des millions de fois de ne pas parler aux étrangers.
Monsieur Siméon, c'est qui ce drôle de monsieur?
Bien le bonjour, monsieur Siméon. Apollon le grillon, à votre service. Ouais.
L'histoire des drôles de petites bêtes, ça a commencé, mais vraiment très simplement, hein, en cherchant des personnages. J'ai dessiné un jour une petite abeille. Je me suis dit, il faut que je lui trouve un nom, une histoire. Et cette petite abeille que j'ai nommée Mireille l'abeille, a été donc le premier titre de la collection qui en compte 60. Et chaque nouveau titre que j'introduis dans la collection, dans ce jardin imaginaire, est consacré à une petite bête que j'introduis dans le jardin. Bon, il y a eu Léon de Bourdon, Siméon Papillon, enfin Belle la Coccinelle, qui sont un peu des personnages comme ça, Loulou le Pou. Très vite, la collection a eu un succès qui a été assez fulgurant quand même.
Est-ce que le projet de fiction que vous nourrissez à travers ça, c'est un peu une comédie humaine ?
Bien sûr. Chaque personnage est un caractère, et ce caractère, j'essaye évidemment de trouver le lien entre l'animal et le caractère humain que pourrait avoir cet animal. Donc, oui, c'est un exercice intéressant de travailler sur l'anthropomorphie. C'est intéressant aussi que les enfants puissent s'identifier aussi à ces personnages.
Comme tous les jours avant l'hiver, les fourmis se dépêchaient de récolter les dernières graines. Mais il y en avait une encore plus courageuse et travailleuse que les autres. Et cette fourmi, c'était Marie. Marie la fourmi rendait service à tout le monde au jardin. Mais personne n'avait jamais songé à la remercier.
On voit bien dans Théo le mulot, par exemple, là, on voit au pied de l'arbre.
Voilà.
Et on voit cet arbre dont on ne voit que les premiers centimètres sortis de terre et qui semble immense, en fait.
Oui, bien sûr.
C'est trop mis en perspective, je pense.
Je pense que c'est très important parce que ce côté infiniment grand, infiniment petit, c'est un peu ce que ressentent les enfants quand ils sont petits. Ils ont du mal à vivre ce que vivent les grands. Et ils ont aussi leur propre monde, le monde qui fait 45 centimètres de haut au départ ou 30 cm de haut, et voilà, c'est au ras du sol, c'est le mulot, c'est vraiment, c'est un exemple aussi, et puis...
C'est quoi, pour vous, le secret d'un livre pour enfants réussi ? La recette ?
Il n'y a pas de recette, malheureusement, il n'y a pas de recette. Je pense qu'il faut être sincère, il faut ne pas chercher à calculer, il faut être soi-même, et ça demande une certaine, un certain travail sur soi-même, d'ailleurs, pour aller à l'essentiel. En fait, mon travail est très solitaire. J'écris pour les enfants, mais je les rencontre pas tant que ça, et je pense pas à tous les enfants qui vont être mes lecteurs. J'essaye d'abord de me faire plaisir et de prendre du plaisir dans ce que je fais. Le pire étant de calculer, de chercher à faire un succès avec des recettes de marketeur, enfin voilà, c'est pas du tout mon truc.
Comment expliquez-vous la survie de ce petit monde merveilleux et naturel au pays de PlayStation et de Nintendo ?
C'est vrai que parfois j'ai le sentiment de parler d'un monde qui est en danger, en tout cas je parle de la nature des jardins et j'ai l'impression, sans avoir de message écologique ou militant, mais j'ai l'impression que je parle d'un monde qui est en survie. Les insectes, on n'en voit plus dans les jardins. Mais vous savez, l'émerveillement des enfants dans la nature, il est réel et il existe. C'est vrai que je regrette parfois que les enfants soient sollicités par tant d'images, que l'écran prenne une importance considérable. Mais je pense que l'image écran, tablette, doit être contrôlée. Parce que je pense qu'il faut pouvoir accorder aux enfants une place à la rêverie. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Enfin, il y a de la place pour Nintendo, et les personnages, je sais pas, Mario, mais il y a de la place aussi pour Ernest et Célestine, et les drôles de petites bêtes. Je pense qu'il faut être là pour, en tout cas, nourrir l'imaginaire des enfants. Oups. Donc, ça doit être Pauline, mon éditrice.
Tu crois ?
Bonjour Colline.
Bonjour.
Colline Fort-Poiré, vous êtes l'éditrice chez Gallimard et Giboulet, chez Gallimard Jeunesse et dans la collection Giboulet de ces drôles de petites bêtes.
Giboulet, c'est une petite entité au sein de Gallimard, et disons Gallimard Jeunesse si vous voulez, mais... le principe, c'est de... Je ne fais que de la création, c'est-à-dire des livres qui partent de rien. J'achète très peu à l'étranger, par exemple. Et puis, je cherche des auteurs et des artistes.
Vous cherchez des auteurs, des artistes, oui. Donc j'ai envie de dire des pattes esthétiques.
Ah oui, c'est très important pour moi. C'est Il y a eu une époque où moi, j'ai vraiment commencé mon travail dans les années 80, où il y avait beaucoup de choses à faire, parce que je pense que le statut de l'artiste dans la littérature jeunesse n'était pas celui que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y avait des... Il y avait des gens merveilleux. Je vous parlais d'André François, de Saint-Dac, et d'autres. Enfin, Anton, tu dois savoir qui était là.
Il y en avait certains, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette reconnaissance, ou en tout cas, j'ai vu au fil des années l'importance qu'a pris l'édition jeunesse. C'est considérablement développé. Maintenant, il y a une création française qui est très importante.
Quand j'ai vu, par exemple, Anton, quand on s'est rencontrés, on a travaillé avant Les Petites Bêtes. Bon, moi, j'étais très intéressée par l'artiste, par son trait. Moi, j'ai toujours suivi le fil rouge du trait. Je sais qu'il a évolué, qu'il va évoluer. C'est ça, le travail d'un artiste. Ce n'est pas toujours les mêmes recettes, justement, de fabrique pour faire des livres d'enfants. Vous vous rendez compte, une série qui dure plus de, enfin, une vingtaine d'années? Est toujours aussi forte et avec justement l'évolution. Parce que pour moi, c'est le secret des séries, des collections. Si elle est figée dans la réussite du départ, c'est fini. Il faut qu'elle évolue.
Parce qu'on en connaît d'autres, des collections qui sont beaucoup moins artistiques et beaucoup plus figées. Enfin, je pense au petit pingouin, là, je ne sais même plus comment il s'appelle.
Salut, c'est moi, Tchoupi, je marche vers l'école.
Oui, alors Tchoupi, Petit Ours Brun, etc. Donc ceux-là, on est dans un autre registre. Oui. Ce sont des séries qui marchent. Et alors, pourquoi ?
Alors là, je dirais, moi, franchement, que d'abord, je pense que Petit Ours Brun et Tchoupi, c'est très différent.
Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, Petit Ours Brun. Coucou, c'est toi mon copain, Petit Ours Brun. Petit Ours.
Bon, même si le petit ours brun, il est figé, il bouge pas, c'est comme il n'a pas beaucoup de sentiments, petit ours brun. C'est l'enfant qui met tout son sentiment sur l'ours. Tchoupi, je dois vous dire que j'ai aucune passion pour Tchoupi. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis du côté des artistes.
Et du pinceau, et de la gouache.
Oui, ou même de tout, ce qui peut. Mais si vous voulez, il faut que le personnage... quels sont les personnages qui restent? Il y en a beaucoup qu'on aime. C'est ceux qui vous parlent, c'est ceux qui ont regard. Voilà, et qui a un échange de regard entre l'enfant... Le personnage est bien sûr tout le subconscient d'un dessin.
Toutes les tendances existent dans la littérature jeunesse.
Je pense qu'il y a la littérature de jeunesse d'imagination et une littérature plus éducative avec des projets. Je me souviens, moi, avoir été, par une de nos collections, avoir été au banc de toutes les bibliothèques dirigées par le Front National. Oui. On avait fait des contes avec Muriel Bloch, que vous connaissez peut-être, la conteuse, et on avait fait un conte, on avait fait des contes de tous les pays. Et on avait été mis à l'index, sortis de leur bibliothèque, par exemple. Moi, je crois qu'il faut être sincère et spontané. Et moi, je tiens à la... Enfin, je pense que tous mes amis, mes collègues éditeurs ont besoin de liberté pour créer. Et l'éducation... Vous voyez, moi je tiens, et avec Anton on est pareil, à l'éducation de l'œil. Parce que ça, on l'oublie toujours. L'éducation, c'est par les mots, par des petites... Mais ce qui est très important pour les enfants petits, c'est qu'on les habitue à reconnaître les belles images. De ne pas leur casser leur regard. Et ça, c'est une éducation qui n'est pas encore assez faite.
Un chat reste un chat. Conte vietnamien. Il était une fois un homme qui avait un chat. Comme ce dernier n'avait pas son pareil, il l'avait nommé Ciel. Un jour, un ami lui rendit visite. Étonné de ce nom bizarre, il demanda : « Pourquoi avoir choisi ce nom ?» L'homme expliqua : « Mon chat est si précieux et unique que le nom « chat » ne lui convient pas. Il n'y a que le ciel qui soit à sa mesure, puisque rien n'est comparable au ciel. Mais le ciel ne peut-il pas être envahi par les nuages ? Questionna l'ami. S'il en est ainsi, dit l'homme, je nommerai mon chat nuage. L'ami reprit. Le vent, évidemment, peut chasser les nuages. C'est vrai. Alors je le nommerai vent. Les murs de la cité arrêtent le vent. En effet, je le nommerai mur. Les souris, pourtant, peuvent miner les murs. Juste, je le nommerai souris. Les souris seront attrapées par le chat. L'homme réfléchit et reconnut. Il faut donc que je lui rende son nom de chat. L'ami éclata de rire. Un chat, ne reste-t-il pas toujours un chat ? Muriel Bloch, Le secret du nom et autres contes. Édition Gallimard Jeunesse, Giboulet.
La littérature jeunesse expliquée aux parents, c'était un reportage de Christine Siméon. Prise de son Raymond Albouy et Frédéric Kérou. Mixage Rémi Quincé. Réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. À la semaine prochaine.